Bonjour à toutes et à tous, Didier Delattre sur EDFM 98 pour un nouveau rendez-vous compte. Des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes, des projets solidaires partagés, des initiatives pour protéger notre environnement qui, autour de nous, enrichissent notre présent. C'est ici et maintenant.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère. On regardait les autres gens comme ils dépensaient leur argent. Nous, il fallait faire attention quand on avait payé le prix d'une location. Il ne nous restait pas grand-chose.
Alors oui, aujourd'hui, sur ce début de chanson de Michel Jonas, je vous emmène au bord de la mer, plus particulièrement à Mers-les-Bains. Mers-les-Bains, près du Tréport. On y a déjà fait un tour il y a quelques émissions, rappelez-vous, à propos de l'exposition consacrée à Mers, à Bernard Vercruis, peintre naïf animalier, en particulier des chats, qui vit et travaille à Auvers-sur-Oise. On lui a consacré deux émissions, disponibles en podcast, bien sûr, sur le site d'IDFM. Et dans la deuxième émission, Madame Agnès Gerlin nous avait présenté cette expo et présenté le programme de la Nuit de la Lecture, organisé le samedi 20 janvier par la médiathèque de Mers. Eh bien aujourd'hui, c'est M. Didier Lyon, guide conférencier à Mers et au Tréport, qui va nous permettre d'établir des points communs entre Mers-les-Bains et Enghien-les-Bains. D'ailleurs, la composition même du nom de nos deux communes est déjà l'un de ces points. Voilà, d'abord je voulais vous remercier, monsieur Didier Lyon, que vous êtes guide conférencier, conseiller en séjour touristique à l'Office de tourisme Destination Tréport-Mers. Ça.
C'est ça.
Vous avez bien voulu me recevoir pour réaliser cette interview. Interview qui a pour but de mettre en évidence des éléments communs entre nos deux communes, pourtant si différentes.
Oui, tout à fait. C'est bien ça, monsieur Delattre.
Est-ce que vous pouvez d'abord nous situer géographiquement Mers-les-Bains et nous donner quelques indications sur sa population, le nombre d'habitants, les principales activités économiques ?
Oui, alors Mers-les-Bains est situé juste à la limite nord de la Seine-Maritime. On est déjà côté Somme, en fait, quand on est à Mers-les-Bains. On est sur la région des Hauts-de-France. Donc on est juste à côté du Tréport ou de la ville 2, en limite de région. Mers-les-Bains, c'est une commune à l'heure actuelle d'un peu moins de 3000 habitants qui travaille toujours autour de l'activité verrière. C'est la verrerie de haute parfumerie qui est importante dans la région. Donc une activité qui trouve essentiellement son implantation avec l'entreprise Veressence, qui est la grosse entreprise de la commune.
Alors Mers-les-Bains, Enghien-les-Bains, vous pouvez d'abord nous expliquer l'origine du nom de Mers, parce qu'elle peut sembler évidente et pourtant...
Oui, alors on dit bien effectivement Mers-les-Bains, il faut vraiment faire la distinction avec le pluriel de Mers, c'est vraiment une fausse idée de se dire que les deux mots sont identiques. Mers, en fait, est à rapprocher de l'étymologie mer, qui signifie eau stagnante. Donc on fait allusion à la zone marécageuse qui a existé et qui s'appelle maintenant la prairie, hein, qui est une zone depuis laquelle est partie la construction de ce petit village.
Le train, on pourrait dire en quelque sorte, là on franchit bien sûr les époques, le train a transformé le village de Mers, qui était une commune à dominante agricole, l'a transformé en ville de villégiature et de plaisir. Avec quelques conflits de territoire, je crois.
Absolument. Oui, alors là, on est vraiment sur une transformation du village, donc un petit village de 400 âmes, hein, un petit village d'agriculteurs, de pêcheurs, qui est établi sur les hauteurs du village. Le train va permettre l'arrivée d'une nouvelle clientèle dans la région. Ce sont des baigneurs, ce sont des personnes qui vont venir acquérir un territoire, une terre, et y faire bâtir leur résidence secondaire. Alors c'est 1873, c'est la belle époque. Donc ce sont des clientèles nouvelles pour la région et on va effectivement devoir faire cohabiter sous tout ce petit monde les villégiateurs, c'est comme ça qu'on les appelle à l'époque, et puis la population locale qui va en fait se trouver quelque peu opposée pendant la période estivale. Les propriétaires agricoles viennent faire paître leurs vaches essentiellement dans cette fameuse prairie. Et donc les premiers villégiateurs, eux, pratiquent le cricket ou le tennis. Donc il faut faire cohabiter tout ce petit monde. Ça n'est pas évident en démarrage.
Et je crois d'ailleurs qu'il y a il y a un arrêté municipal.
Oui, absolument. Un arrêté municipal en 1904 qui va permettre à ces estivants de profiter pleinement de ce territoire entre le mois de juin et le mois de septembre. C'est là que s'installe la période estivale pour eux. Et donc les propriétaires terriens, eux, s'excentrent de cette zone.
Voilà, les vaches vont paître ailleurs, si on
Les
peut
vaches vont
dire.
paître ailleurs.
Alors on regardait les bateaux, on suçait des glaces à l'eau, les palaces, les restaurants, on ne faisait que passer devant, et on regardait les bateaux, le matin on se réveillait tôt, sur la plage pendant des heures. On prenait de belles couleurs.
Vous êtes toujours bien sûr IDFM Radio à l'écoute de ce rendez-vous conte consacré au point commun entre Enghien-les-Bains et Mers-les-Bains. On retrouve Monsieur Didier Lyon, guide conférencier à Mers-le-Tréport. Donc bien sûr, dans nos deux villes, Enghien-les-Bains et Mers-les-Bains, l'eau joue un rôle important, voire décisif. Comment Mers est-elle devenue une station balnéaire prisée des Parisiens aisés, vous l'avez un petit peu évoqué, à travers de ce qu'on appelle les baigneurs?
Oui, c'est la balnéothérapie, ce sont les soins par les bienfaits de l'eau de mer. Donc, c'est une pratique qui va devenir très courante au 19e siècle, qui est vraiment importante auprès de ces populations fortunées, aristocratie parisienne essentiellement, ou la bourgeoisie. On dit parisienne, mais aussi pour nous du nord de la France, d'Amiens, hein, qui est plus proche pour nous. Et ces bienfaits sont reconnus pour les soins ORL, pour les rhumatismes, voire même, parfois on trouve certains textes qui nous disent qu'on peut soigner l'hystérie avec l'immersion dans l'eau de mer. Voilà, donc vraiment ce phénomène est en vogue et va s'amplifier complètement en cette fin 19e siècle.
À l'opposé des croyances relatives à l'eau et l'eau chaude notamment, qui avaient cours au XVIIe siècle, je crois.
C'est complètement ça. Auparavant, l'idée de l'eau chaude et de la possibilité de transmettre par les pores des maladies, d'amplifier le mal-être, eh bien cette idée va complètement se transformer au XVIIIe siècle sous l'impulsion des travaux d'un docteur britannique qui s'appelait Charles Brussels, qui va apporter justement une perception complètement différente des effets de l'eau. Et donc, on va parler des eaux sulfurées. Ça, c'est essentiellement pour votre côté, je pense.
Voilà. Pour Mers, c'est bien une pratique anglaise qui a été exportée ici, de ce côté-ci de la Manche.
Voilà, c'est ça. Essentiellement, voilà, on n'est pas très loin de la côte. Donc, les Anglais, après avoir vraiment amplifié les stations balnéaires de leur côté, n'ont pas hésité à franchir le passage de la Manche et à s'installer sur Dieppe, tout proche de chez nous. Au Tréport, tout à côté, donc, et puis ainsi de suite vers le Touquet, un peu plus au nord. Hein, donc Mers-les-Bains a profité de cet engouement à l'époque pour les installations des Britanniques.
Voilà. Effectivement, et les bains de mer étaient bons, en particulier pour les femmes des villes.
Oui, alors initialement, les bains de mer sont préconisés pour soigner les personnes un petit peu chétives. Les dames des villes sont engainées complètement dans des corsets qui abîment leur corps. Donc on va prétendre que l'immersion dans l'eau de mer va leur apporter un bienfait nouveau. Et on joue complètement une nouveauté de cette idée de bienfait sur le corps qui va vraiment se mettre en place pour ces dames de l'aristocratie.
À Enghien, unique ville thermale d'Île-de-France, je vous le rappelle, comme à Mers, l'eau se révèle également bienfaitrice pour traiter toutes sortes de maladies. Mais à Enghien, il s'agit d'une eau qui n'est bien sûr pas celle de la mer, distante d'au moins 200 km, mais en plus d'une eau qui n'a rien d'attirant a priori. Explication de ce mystère par cet extrait d'un reportage de 20 minutes TV du 9 août 2023.
Un jour au XVIIIe siècle, il y a un abbé qui faisait partie d'un collège, justement à Montmorency, qui était un peu un abbé scientifique. Il était curieux de sciences naturelles et il venait ici voir, sur la demande des habitants, des ruisseaux que les habitants appelaient des ruisseaux puants, parce qu'il y avait des sources d'eau qui sentaient un drôle d'odeur. Du soufre.
Ah, oui.
Alors au début, on ne savait pas que c'était du soufre. Il a fait marcher son réseau, notre curé, et il a trouvé le moyen d'expliquer que c'était bien la création de soufre, une sorte de réaction chimique entre l'eau du lac et le gypse qui se trouvait en dessous. Et lorsque les deux étaient en contact, bah, ça créait une sorte de réaction et ça créait du soufre. Il a été plus loin que ça, cet abbé Louis Cotte, l'abbé Cotte.
L'abbé Cotte.
Et cet abbé Cotte, on aime bien l'appeler comme ça, il a essayé de chercher en quoi les eaux sulfureuses pouvaient avoir des vertus curatives, des vertus médicinales. Et donc on a fini par trouver qu'il y avait de nombreux maux et maladies qui pouvaient se soigner grâce à l'eau sulfureuse dans Gare-les-Bains.
Pour occuper les baigneurs, les villégiateurs, comme vous avez dit tout à l'heure, eh bien, des fêtes et des casinos. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des 7 casinos qui se sont succédés à Mers quand même?
Oui, c'est étonnant pour une petite commune comme ça, 7 casinos. Le tout dernier date de 2014. Hein, le premier date vraisemblablement de 1868. Alors, de types de casinos très différents se sont succédés. Celui-ci était un casino fort modeste hein, sur la plage qui n'a pas eu beaucoup de succès puisqu'il cachait la vue justement à ses villégiateurs. Il a été déplacé plusieurs fois. On parle plutôt de notre quatrième casino mersois qui est en fait une belle structure qui provenait lors de l'exposition universelle de Paris en 1889 de ce qui était le restaurant Duval de cette exposition universelle, réinstallé en partie à Mers et même encore agrandi.
Ce que j'ai appris, moi, en parlant avec vous aussi, c'est qu'une des activités dans les casinos, c'était de jouer aux petits chevaux.
Oui, alors il n'y a pas que les jeux d'argent, effectivement. Il y a toutes sortes d'activités qu'on peut mener dans un casino qui sont culturelles. Il y a des salons de lecture, on joue aux petits chevaux, effectivement. Il y a des choses un petit peu différentes. La loi ayant évolué, on n'a pas toujours, effectivement, misé sur de l'argent. Le casino est un lieu où il fait bon vivre, où la population qui vient profiter de ces plaisirs-là peut effectivement avoir toute une palette d'activités différentes.
Effectivement, et au casino d'Anguin, on jouait aussi aux petits chevaux. Assez inattendu, quand on pense casino, on ne pense pas à ce genre de jeu. Alors oui, on jouait à toutes sortes de jeux inattendus dans les casinos de la fin du 19e, à Mers comme à Anguin. La preuve, extrait d'un reportage de Val-d'Oise TV qui date de 2015.
Nous sommes en 1845. La ville fait le plein de curistes grâce à ses eaux thermales. Pour les occuper, on crée un espace de jeu en face des thermes, devant le lac. C'est un modeste chalet en bois et les jeux proposés sont bien différents de ceux d'aujourd'hui.
On joue aux boules, on jouait à des parties de cartes, on jouait aux quilles. Et ce petit chalet en bois, en 1870, fait la joie des Prussiens ici à Anguin, puisque l'hiver 70 est un hiver très froid, et les Prussiens cassent le casino éventuel, c'est-à-dire le petit chalet en bois, pour se chauffer, donc à plus de casino.
Après cet extrait de la chanson de la Grande Sophie, intitulée tout simplement « La mer », on retrouve Didier Lyon, guide conférencier à Mers, le Tréport. Didier Lyon qui nous raconte quelques-uns des déboires subis par les casinos de Mers au XXe siècle, déboires connus également par le casino d'Anguin, à la suite d'une loi datant de 1919. En ce qui concerne Anguin, en 1919, l'Assemblée nationale vote une loi interdisant les jeux de hasard dans un rayon de 100 km autour de Paris. Alors évidemment, Anguin est sévèrement frappé, son activité périclite, et il faudra attendre 1931 pour que la loi soit assouplie. Est-ce qu'à votre connaissance, cette même loi s'est appliquée au casino de Mers
Je ne saurais le dire. Hein. C'est vrai que Mers-les-Bains a connu toute sa période de splendeur, essentiellement à la Belle Époque, donc avant 1914. Il est effectivement possible d'avoir eu cette loi qui vient frapper aussi ces petits casinos de banlieue. Hein.
Alors, je crois qu'il est arrivé un certain malheur au quatrième casino.
Oui, alors malheureusement, ce casino, on aurait aimé le garder et avoir cette structure magnifique sur le front de mer. Bon, les Allemands ayant occupé la commune pendant la Seconde Guerre mondiale ont jugé opportun, serais-je tenté de dire, de démolir ce casino pour positionner en lieu et place une batterie d'artillerie. Donc malheureusement, tout ça a été totalement perdu.
Mais bon, la batterie d'artillerie n'existe plus, j'imagine.
Non, en lieu et place, maintenant, on a une barre d'immeubles hein, qui surprend peut-être le promeneur hein, qui a pu être bâti dans les années 80. Maintenant, tout ce secteur de Mers-les-Bains est protégé. Donc les constructions nouvelles s'intègrent beaucoup mieux que ne le faisaient les bâtiments à la fin des années 80. Donc oui, cette batterie d'artillerie a disparu, mais tout n'a pas disparu de cette époque. On a encore quelques blocos dans la commune qui sont là pour rappeler cette époque.
Y compris au centre-ville, en fait.
Complètement au centre-ville, absolument. On a deux blocos qui trônent encore fièrement, serais-je tenté de dire, dans la commune.
Avant de retrouver Didier Lyon, notre guide conférencier, qui nous fait découvrir Mers-les-Bains, qui décidément a bien des points communs avec Enghien-les-Bains, par exemple l'existence d'un casino détruit à Enghien durant la guerre de 1870 par les Prussiens, et à Mers, ce sera par les Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Rendez-vous compte. Extrait d'une belle chanson du rappeur Dizis la Peste, intitulée tout simplement Casino, une chanson qui date de 2021 et qui dépeint les derniers jours d'un couple. Une lente agonie au cours de laquelle on se sent dans l'impasse, comme à Vegas, comme à Deauville, quand on sort du casino.
Toujours dans l'impasse, toujours dans l'impasse, comme Pacino, comme à Vegas, à Deauville, sort du casino. Est-ce que je rêve? Est-ce que je perds? Qu'est-ce que je risque? Est-ce que je l'aime? Qu'est-ce que je perds si je la quitte? Toujours en débat, plusieurs raisons qui se cachent dans les silences de la maison. Comment je fais pour quitter la terre?
Vous êtes toujours bien sur IDFM Radio à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré au point commun entre Enghien-les-Bains et Mers-les-Bains. Donc Mers-les-Bains s'est beaucoup développé à la Belle Époque. Qui dit Belle Époque, on dit aussi également Art Nouveau. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler des constructions de ces villas Art Nouveau au bord de mer à Mers?
Oui, alors il faut quand même préciser que ce ne sont pas que des villas Art Nouveau, puisqu'en fait elles sont édifiées sur une quarantaine d'années. L'Art Nouveau représente quelques villas sur le quartier, qui est créé de manière chronologique, on va dire du nord vers le sud, donc vers le Tréport. Petit à petit, on gagne des terres, et les rues proches Tréport sont des rues où on va trouver l'Art Nouveau, donc l'art floral. C'est une période de grande transformation des apparences des villas. Des architectes de renom sont choisis pour être les commanditaires de ces créations de villas. Donc, toutes plus exubérantes les unes que les autres, avec des façades très décorées, de la courbe, effectivement, partout sur les poutres, des motifs végétaux, floraux. Ça, c'est vraiment le propre de cette époque. Et quelques villas de Mers reprennent cette inspiration.
Avec aussi des façades en couleur.
Alors oui, des façades très colorées, c'est ce qui peut surprendre de prime abord, parce que parfois le promeneur se dit des jaunes, des rouges, des verts, des bleus, on a toutes les couleurs. Les noms des villas incitent souvent les propriétaires à entretenir les villas en fonction justement des noms qu'on leur a donnés. Les fleurs, la jonquille va être jaune, le bleuet va être bleu, bien sûr. Et toutes les couleurs sont visibles. Beaucoup de couleurs sont liées au monde de la mer. Donc la couleur verte est omniprésente, hein, bleu ou vert, mais la couleur est très très présente dans ce quartier.
Alors ces villas sont magnifiques, mais alors il y a le gros problème de leur entretien.
Oui, alors l'entretien c'est un lourd challenge puisque la cité est protégée, hein, il est classé site patrimonial remarquable depuis 2016, avec une nécessité d'entretien, avec une obligation d'entretien, peut-on dire. Et voilà, les successions ayant parfois des difficultés à être opérées dans de bonnes dispositions, où le turnover entre les propriétaires, la répartition des villas entre différents propriétaires aussi, va amener à une altération de certains biens. La commune de Mers-les-Bains veille à ce que tout cela ne soit que peu visible, le moins visible possible à l'œil du promeneur. Donc c'est une lourde mission qui est entreprise.
Comme Mers-les-Bains, Enghien, les Bains est également célèbre pour ses villas de style Art Nouveau et Art Déco. Signalons pour nos éditeurs un ouvrage très récent intitulé « Enghien 1900-1930, Art Nouveau, Art Déco » de Maurice Culot, historien, architecte et urbaniste, et de Charlotte Muse, historienne de l'art. Un ouvrage paru en octobre 2023 aux éditeurs Archives d'architecture moderne, avec une magnifique couverture, bien entendu, Art Déco. Une œuvre qui approfondit l'influence Art Nouveau et Art Déco dans la construction de la ville d'Enghien à travers ses villas, ses édifices religieux et même ses établissements scolaires, avec de nombreuses photographies qui illustrent les différents styles architecturaux et décoratifs qui font d'Enghien, je cite, « un site patrimonial remarquable jusque dans les détails des ferronneries, colonnes et mosaïques ». D'ailleurs, la médiathèque Georges Sand d'Enghien a permis au public de rencontrer les auteurs et l'éditeur en présence de M. Philippe Sueur, maire d'Enghien. C'était le samedi 18 novembre 2023. Un événement annoncé en novembre dans le Journal de François. Journal de François qui donne toutes les infos de proximité de la vallée de Montmorency. Il suffit de taper Journal de François dans votre moteur de recherche et de vous abonner. C'est gratuit. C'est complet, c'est génial, rendez-vous compte. Il n'y avait pas que les villas Art Nouveau qui étaient jolies au début du XXe siècle, à Mers comme à Enghien. Les femmes aussi, comme le chantait en 1910 Georges Vorelli. Alors ça, c'est une archive, rendez-vous compte. Vous êtes toujours bien sur IDFM Radio à l'écoute de ce rendez-vous compte consacré au point commun entre Enghien-les-Bains et Mers-les-Bains. Alors Mers-les-Bains, comme le lac d'Enghien, a reçu la visite du plus prestigieux des écrivains français du 19e, Victor Hugo.
En effet, Victor Hugo, lors de ses voyages d'été, a fréquenté la commune de Mers-les-Bains entre 1835 et 1837. Il avait une correspondance avec son épouse notamment et puis avec un ami peintre qui a été mémorisé lors de courriers dont on a la trace. Hein. Victor Hugo est effectivement l'un des auteurs qui a écrit sur la commune et puis sur toute la région en effet.
Et je crois qu'un autre écrivain célèbre s'est aussi distingué à Mers.
Oui, alors on peut parler effectivement d'Eugène Daby, l'auteur du roman « L'Hôtel du Nord ». Hôtel du Nord, dont on connaît surtout la mise à l'écran par Marcel Carnet avec Arletty et Louis Jouvet, bien entendu.
Voilà. Allez, je résiste pas au plaisir de réécouter avec vous ce passage d'anthologie du film de Marcel Carnet, adapté de l'Hôtel du Nord, hein, le roman de Eugène Daby. Passage d'anthologie durant lequel Madame Raymonde, alias Arletty, une prostituée, se dispute avec Monsieur Edmond, son souteneur, Louis Jouvet, qui veut changer, rappelez-vous, d'atmosphère.
On n'est pas heureux tous les deux?
Non.
T'en es sûr?
Oui.
T'aimes pas notre vie?
Tu l'aimes, toi, notre vie?
Faut bien, je m'y suis habituée. Coquermier à part, t'es plutôt bon mec. Par terre, on se dispute, mais au lit, on s'explique. Et sur l'oreiller, on se comprend. Alors?
Alors rien, j'en ai assez. Tu saisis, je m'asphyxie. Tu saisis, je m'asphyxie.
À Toulon, il y a de l'air puisqu'il y a la mer. Tu respireras mieux.
Partout où on ira, ça sentira le pourri.
Allons à l'étranger, aux colonies.
Avec quoi?
Cette idée.
Alors ça sera partout pareil. J'ai besoin de changer l'atmosphère. Et moi, l'atmosphère, c'est toi.
C'est la première fois qu'on me traite d'atmosphère. Ici, une atmosphère, t'es un drôle de bled. Oh là là, des types qui sont du milieu sans en être et qui connent à cause de ce qu'ils ont été, on devrait les vider. Atmosphère, atmosphère, est-ce que j'ai une gueule d'atmosphère? Puisque c'est ça, vas-y tout seul à la Varenne. Bonne pêche et bonne atmosphère.
Merce est très attachée à son patrimoine historique et puis architectural. Elle organise des fêtes liées à son passé.
Oui, alors le quatrième week-end de juillet a lieu une fête qu'on appelle la fête des baigneurs, qui est largement liée à son passé, puisque cette fête a été inaugurée en 1892, donc on est en plein dans cette période de la Belle Époque, où Merce-les-Bains et sa voisine Le Tréport se tiraillaient la limite de propriété communale, hein, et après de lourdes négociations, échanges, la commune de Merce rétablit sa frontière le plus proche possible du Tréport. En 1891, la fête des baigneurs étant créée l'année suivante, et après avoir été interrompue à quelques périodes pendant l'histoire, pendant les guerres notamment, a été modifiée un petit peu dans les années 60 dans l'esprit, et est revenue depuis une vingtaine d'années comme un événement complètement incontournable.
Et donc, qu'est-ce que c'est que cette fête des baigneurs ?
Eh bien, c'est une reconstitution des scènes de la Belle Époque. Alors, vous avez des défilés en costume, vous avez des scènes de... Cette année, on avait par exemple l'aviation du début du XXe siècle, des avions anciens qui survolaient la commune. On a les bains de mer de l'époque, donc les fameux bains à la corde, ou alors, encore plus étonnant, le fameux bain à la lame, qui était un bain thérapeutique. On reconstitue ces scènes, on va dire, de la Belle Époque.
Je crois que ça a beaucoup de succès.
C'est un succès énorme, absolument. Cette année, la météo a été un petit peu capricieuse et ça a un petit peu estompé notre réussite, mais c'est un gros, gros succès. Le succès a été au rendez-vous malgré les conditions climatiques un petit peu défavorables cette année, malgré tout.
Donc rendez-vous en juillet prochain, quatrième
week-end de juillet 2024, bien sûr, pour la prochaine édition.
Ça sera presque en même temps que les Jeux Olympiques.
Oui, oui. Alors on va avoir un petit peu de concurrence, mais on peut profiter des deux événements sans aucun problème.
Chaque année, Merce-les-Bains célèbre son patrimoine Belle Époque au cours de la fête de la mer, fin juillet. Eh bien, Enghien célèbre également au printemps son patrimoine, en particulier depuis son lac avec vue sur le casino. C'est le festival Lac en Seine. Concerts, feux d'artifice. Tenez par exemple au mois de juin 2023, c'était Yannick Noah. On écoute. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques arguments pour inciter les auditeurs d'IDFM à venir passer au moins quelques jours de leurs vacances à Merce, Merce-les-Bains, ou au Tréport, ou encore à EU, puisque ces trois communes sont officiellement des villes sœurs?
Voilà, c'est ça, complètement. Quand on fait la promotion de notre commune de Merce-les-Bains, on ne peut pas mettre de côté ses voisines. Donc ces trois villes sœurs ont une complémentarité d'aspect, d'histoire. Qui mérite vraiment un déplacement. On n'est pas loin, hein, de Paris, nous sommes à 3 heures de train, le train permet toujours de venir chez nous. Et cette richesse patrimoniale, cette diversité de paysages aussi, puisqu'on n'est pas très loin de la baie de Somme, on est sur une plage de galets chez nous, on a la falaise, on a un patrimoine riche à Merce-les-Bains, on a un patrimoine très riche à eux, on a une histoire liée bien entendu au Tréport avec l'activité maritime, donc on a des possibilités de découvrir cette richesse maritime en sortie en mer, tout un panel d'activités est possible dans la région bien sûr.
Sans oublier les visites touristiques que vous organisez notamment.
Évidemment, notre vocation c'est de faire découvrir à nos visiteurs ces richesses patrimoniales, donc on vous propose des visites des principales communes, et puis on étend un petit peu notre territoire au-delà encore, puisque la communauté de communes s'est établie sur 28 communes, les villes sœurs c'est 28 communes, 13 dans la Somme, 15 en Seine-Maritime.
J'ajoute qu'on mange très bien aussi au Tréport, à Eu et à Merce, notamment les fruits de mer, hein, sur les restaurants du bord de mer, et c'est vraiment très 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 agréable. Je voulais remercier à nouveau Monsieur Didier Lyon, donc, et puis je vous donne peut-être rendez-vous à Enghien-les-Bains, pourquoi pas.
Eh bien, ce sera avec plaisir. Une découverte pour moi d'Enghien-les-Bains quand vous m'y inviterez. Merci beaucoup à vous, Monsieur Delatte.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère.
Ainsi se termine notre balade historique, musicale et littéraire à Merce-les-Bains, ville jumelée avec Eu et le Tréport. Merci qui, nous l'avons vu, a bien des points communs avec Enghien-les-Bains. Un grand merci à monsieur Didier Lyon, guide touristique, conférencier à Mers, le Tréport, pour son accueil. C'était Didier Delatte sur IDFM Radio, à la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous compte, même heure, même adresse, des projets solidaires partagés, des créations originales qui autour de nous enrichissent notre présent, des rencontres inattendues qui nous viennent parfois de la nuit des temps et des hommes. Ce sera ici et maintenant, rendez-vous compte.